Nous allons voir dans ce deuxième shiur une deuxième Akdama que l'on peut faire sur ce Sefer HaTanya. Tout d'abord, nous avions parlé le cours précédent que le mot Tanya pouvait s'inverser en mot Etan et on avait expliqué une première explication référente à ce premier cours. La deuxième explication du mot Etan dans la Torah nous est ordonné une loi concernant un met mitzvah, c'est-à-dire un cadavre humain que l'on aurait retrouvé aux alentours de deux agglomérations. La loi demande que l'on fasse justice. Lorsqu'il y a meurtre, il faut absolument trouver le coupable et faire justice. Le souci dans ce cas, c'est que on vient de trouver ce cadavre et on n'a aucune connaissance quant à l'origine de ce meurtre. Alors, la paracha en question nous demande de mesurer la distance qui sépare ce cadavre des villes avoisinantes. La ville la plus proche de ce cadavre devra apporter des chachamim, des sages de cette ville, et ils viendront avec une génisse. Cette génisse devra être placée dans un endroit qui s'appelle Nahal Etan. C'était un fleuve en Eretz Israël qui était particulièrement difficile d'accès. Et c'est là où cela va être intéressant. Ce Nahal s'appelle donc Nahal Etan, où on devait briser la nuque de la génisse et les chachamim de cette ville devaient déclarer qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose face à ce cadavre, à part de demander un pardon, une selicha, et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il pardonne l'acte malveillant qu'il aurait pu y avoir vis-à-vis de ce cadavre. Cette paracha s'appelle la paracha de Egla Arufa. Eh bien, pourquoi ce Nahal Etan? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Nahal Etan, ce fleuve-là, pour que cette mitzvah de Egla Arufa s'effectue à cet endroit-là? Il y a plusieurs explications quant à cet endroit de Nahal Etan, celle de Rashi et celle du Ramban. Ces deux explications sont les suivantes. La première explique qu'il s'agit d'un endroit aride, sec, tellement aride que la terre n'est pas productive, qu'on a difficilement possibilité de croire à ce que l'on puisse faire une culture dans cet endroit. La deuxième explication parle au contraire d'un endroit où le Nahal, c'est-à-dire ce fleuve, est très puissant, où ses eaux sont très remuantes et il est impossible de le traverser, impossible même d'utiliser la force hydraulique de ce fleuve-là. Eh bien, le Tanya, ou plus exactement le mot Etan, vient nous apporter une notion très importante avant de débuter ce Sefer. C'est la notion de Ahava Mesuteret, que l'on expliquera, commentera, approfondira dans les prakim suivants, et qui est le fondamental du Tanya. En effet, un fleuve de ce type, c'est-à-dire avec des grosses eaux, ou bien d'après l'autre pirouche, un endroit désertique, pour qu'il soit productif, il faut aller trouver une source très profonde d'inspiration pour pouvoir avoir l'idée comment l'utiliser, comment rendre cet endroit ou ce fleuve qui paraît être inutilisable, où on ne peut même pas penser à faire des cultures, de le rendre un endroit fertile, où on a réussi à en tirer quelque chose. Et si vous voulez, la Ahava Mesuteret, que l'on expliquera comme on vient de le dire, c'est justement les puissances d'amour, d'affection qu'il y a entre l'homme et Dieu, et qui sont enfouies profondément dans l'homme. Peu importe son aridité, peu importe son excitation comme celui du fleuve en question, eh bien il y a toujours possibilité de broyer, de sortir un élixir d'un objet, d'un liquide qui paraît être impraticable. Un exemple, nous avons souvent parlé des quatre espèces que l'on utilise à Soukhot. Le lave, le etrog, la myrte et la harava, c'est-à-dire la saule. Il s'avère que ces quatre types correspondent aux quatre sortes de personnes, ceux qui ont des mérites et qui étudient la Torah, ceux qui étudient la Torah qui n'ont pas de mérite, ceux qui ont des mérites qui n'ont pas étudié la Torah, et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. A priori, ces quatre types correspondent à certaines élaborations de personnages que l'on rencontre tous les jours, en effet. La quatrième s'apparente a priori à celle du rachat, c'est-à-dire la saule, qui n'a ni odeur, ni de possibilité d'être consommée. Mais il s'avère qu'en analysant par des recherches pharmaceutiques, l'aspirine fait partie des éléments que l'on peut tirer de la saule, de la harava. Donc vous voyez bien que même un rachat, même une personne qui n'a pas de mérite, même une personne qui n'étudie pas ni l'un ni l'autre, on peut, en broyant, en travaillant, en affinant, en prenant le temps, le traduire, l'épanouir, de faire fleurir et d'apporter à cette personne la possibilité de se révéler, comme la saule que l'on va traiter dans un laboratoire pour en sortir un élixir de santé qui est l'aspirine, qui permet de nous soulager des maux de tête ou de différentes douleurs que l'on puisse ressentir. La Ahava Mesoteret se trouve dans chaque juif. Peu importe son niveau de judaïté, peu importe son niveau d'attachement à la Torah, quoi qu'il arrive, le plus grand des éloignés du peuple juif sera toujours prêt, le cas échéant, lorsqu'on le pressera de trop, à crier au Dieu d'Israël son appartenance, même dans l'oppression, il sera même prêt à donner sa vie en Messirut Nefesh, comme le dit le texte, la Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi-même pour Akadosh Baruch Hu, livrer sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Et les exemples ne manquent pas, que ce soit malheureusement dans les guerres, que ce soit dans les pogroms, que ce soit dans les inquisitions que le peuple juif a subies. Il a toujours été montré qu'il arrivait souvent que les gens, les communautés les plus éloignées faisaient preuve de bravoure plus que les autres. Ça, c'est la Ahava Mesoteret. Mais cela doit passer par d'abord une extériorité sur laquelle on ne doit pas se figer. C'est ce Nahal Etan. Et ce Sefer de Tanya est là pour nous guider, pour pouvoir traverser cette carapace de Nahal Etan. Je répète, Nahal Etan, selon les deux pshatines, selon les deux interprétations, ou un endroit aride qui, à force d'être travaillé, pourra peut-être donner quelque chose, ou bien un fleuve qui gesticule dans les sens, avec un tourbillon, avec des flots dangereux, mais auxquels on arrive à voir à travers et dépasser tout cet aspect grossier, difficile, pour exprimer le fond, l'essence même de ce fleuve. Et l'essence même de ce fleuve, c'est d'arriver à cette pointe, ce qu'on appelle cette Nekouda, ce point de Emet, de vérité, Nekouda et Emet qui se trouve dans chacun de nous. Le Tanya, c'est ce pont. Ce Sefer, voilà, là, va nous apporter, si vous voulez, la possibilité de révéler ce point à notre personne. Et voici donc ce but. Une fois que ce but a été placé, alors nous pouvons maintenant essayer de démarrer l'explication de la Hagdama que le Rav, le Admour HaZaken lui-même, a fait sur son propre Sefer. Avant de passer à l'agdama à proprement dite, je voulais juste donner quelques points sur la personnalité de du Rav Schneur Zalman, du Rabbi Schneur Zalman, Miliadé. Il faut savoir que le mot déjà de Schneur et Zalman donne toute la signification au personnage. Schneur, comme le nom l'indique, Schneur, puis plus loin, or. De lumière. Voici la traduction de son premier prénom, Schneur. Les maîtres de la Chassidoute expliquent que, en effet, ce tzaddik était capable de révéler dans toutes les directions de la Torah, dans toute la Torah Kula, les deux aspects des commentaires de la Torah. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Peshat, c'est-à-dire l'explication littérale et simple des choses, mais également donner la deuxième lumière, la deuxième explication, qui était la partie cachée, la partie ésotérique, qui se révélait à travers les versets de la Torah, les enseignements de la Mishnah, les réflexions de la Gemara, et les halakhot, d'ailleurs, qu'il a lui-même tranché dans son sefer de Shulchan Aruch Arav, qui est justement un Shulchan Aruch que le Rabbi Schneur Zalman Miliadi a écrit lui-même. L'explication selon la Kabbalah nous donne une autre vision des choses. Schneur fait appel à deux ors. Or, il faut savoir, pour pouvoir comprendre, que vous avez dans le monde, à Kadosh Baruch Hu, a créé deux éléments. L'élément masculin, l'élément féminin, que vous retrouverez dans tous les échelons, que ce soit les échelons matériels de la création ou que ce soit les échelons les plus spirituels de la création. Et l'échelon masculin, la partie masculine de la création du monde, contient une lumière dans un réceptacle. Par exemple, une personne a une connaissance d'un domaine d'une science particulière. Par exemple, un mathématicien va avoir un don spécifique aux mathématiques. Donc, on fait appel à la science qui s'habille au travers l'esprit de l'homme. On appelle ça une lumière qui s'habille dans un ustensile, dans un réceptacle. Ou en hébreu, le or qui s'habille dans un keli. Maintenant, la partie féminine a une particularité. C'est qu'elle a la possibilité d'avoir deux ors pour un seul keli. Je m'explique. Avoir la faculté de travailler deux sciences, deux connaissances, deux facultés par le même cerveau, par la même personnalité. Et cela est très important, car il faut savoir que l'objectif, le but de la création, il est vrai, c'est l'homme avec un grand H, ou plutôt l'humanité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la femme représente l'objectif de la création. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Le jour de Yom Kippour, la Torah nous demande et nous oblige à jeûner le jour de Kippour. Or, il faut savoir que le jour de Kippour a une connotation plus féminine que masculine. En quelque sorte, Dieu a ordonné à l'homme de jeûner pour aider sa femme à jeûner. Tout le but, c'est que les femmes juives jeûnent le jour de Kippour, plus que ce soit l'homme qui jeûne. Évidemment, l'injonction de jeûner ce jour-là s'adresse de la même manière à l'homme comme à la femme, sous peine de karet chas v'shalom. Mais l'objectif, c'est que l'homme jeûne, et l'objectif, c'est que la femme jeûne. Le mot Schneur, Schneur, deux hors lumière, fait donc appel à l'objectif de l'objectif. Le but du Admour HaZaken est de descendre la connaissance de Dieu, la maîtrise de sa Neshama, si lui on puisse parler ainsi, Kaviyachol, de manière à avoir cette connaissance dans la partie la plus profonde, dans la cible la plus fine qu'Akadosh Baruch Hu ait créée. Et cette cible-là, c'est justement cette structure-là qui est la Nekeva, c'est-à-dire la partie féminine du monde. C'est d'ailleurs la rhétorique du Yalmo Hazaken, la asot lo dira betartonim. De faire du tarton, c'est-à-dire la partie la plus basse, la partie la plus ciblée de la création, qui est a priori la femme, d'en faire l'objectif final et de descendre les plus grandes lumières, les plus grandes compréhensions à ce niveau-là précisément. C'est ainsi qu'il faut analyser le Rabbi Shneur Zalman. Le mot Zalman, lui aussi, a une connotation. On peut le diviser en Leizman, qui veut dire en son temps. En effet, la chassidoute, cette chassidoute a été un dévoilement qui n'a pas eu lieu dès le départ, c'est-à-dire révélé au Mont Sinaï, puisque le Admour Hazaken n'était pas encore né ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence de la chassidoute était présente au Arsinaï, au moment du don de la Torah. Mais cette essence a été révélée qu'à une date précise. Pourquoi? Parce que chaque génération a besoin d'un révèlement, a besoin de comprendre la Torah d'une manière qui lui est propre. Et c'est la raison pour laquelle le Hadmour HaZaken a écrit le Sefer HaTanya à son époque, la fameuse époque des Lumières, qui correspond à l'époque des Lumières que l'on connaît tous. Il fallait quelque chose qui révolutionne un petit peu la compréhension de la Torah. Et cette révolution était justement bismano en son temps. C'est pour ça que le mot Zalman fait appel au mot Lisman en son temps. Nous aurons l'occasion de réexpliquer cette notion que chaque rabbi a apporté en son temps, en sa génération, un éclairage différent de la Torah qui a permis à la génération en question de pouvoir mieux s'asseoir dans l'éducation, ou bien dans les leçons de morale, ou bien dans les révélations de la Torah au niveau des profondeurs de la Torah, ou bien dans la halakha. Et j'en profite pour parler du Rav Ovadia Yosef, qui malheureusement nous a quittés récemment. De la même manière, le Rav Ovadia Yosef est venu en son temps. C'est vrai que c'était un homme qui avait plutôt l'apparence d'être un maître de la Mishnah, de l'époque de la Mishnah ou de la Gemara, mais Akadosh Baruch Hu nous l'a réservé pour notre temps contemporain, car il avait une mission, il devait nous apporter certaines manières de trancher le code de la vie juive avec le temps moderne que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et à bientôt.